VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Lydia, d'accord, très heureux à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Kenya, le président kenyan Uhuru Kenyatta peut rester à son poste jusqu'à la prestation de serment d'un chef de l'État issu des urnes. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi le procureur général du pays pour tenter d'apaiser la crainte d'une crise constitutionnelle si l'élection présidentielle devait à nouveau être reportée. Après l'invalidation en justice de la réélection du président Kenyatta lors du scrutin du 8 août, la question de la légitimité du président et de son gouvernement a été soulevée, notamment par l'opposition. Au Togo, l'opposition reste mobilisée. Ses partisans ont manifesté jeudi pour la deuxième journée consécutive en vue de réclamer le départ du président fort Niasingbe du pouvoir. Les précisions de Lionel Gaïma.
Les manifestants continuent d'exiger le retour à la limitation du nombre de mandats présidentiels comme prévu par la Constitution de 1992 qui a depuis été modifiée à diverses reprises. En réponse à cette pression, le gouvernement togolais a soumis au Parlement un projet de réforme constitutionnelle limitant à deux le nombre de mandats présidentiels. Toutefois, il a omis le passage clé disant précisément « Nul ne peut effectuer plus de deux mandats », une omission qui, de l'avis des opposants, permettrait au président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de briguer deux autres mandats après avoir succédé à son père qui avait lui-même dirigé le Togo pendant 38 ans. D'où le boycott par l'opposition du vote prévu au Parlement sur ce dossier, ce qui a ouvert la voie à une consultation par voie référendaire. La tension demeure vive au Togo. Les forces de sécurité ont été déployées en grand nombre à Lomé, la capitale. François Patuel, chercheur pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, a déploré dans un communiqué la répression continue des manifestations dans ce pays ouest-africain.
Gambie, la peine de mort est en voie d'être abolie dans le pays. Le président gambien Adama Barrow s'y est engagé hier devant les Nations Unies, 5 ans après le tollé international causé par l'exécution de 9 condamnés par son très autoritaire prédécesseur Yahya Jammeh. Les détails avec Eddy Isango.
Le chef d'État de la Gambie, élu en décembre 2016, a en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York signé 5 traités. L'un porte sur l'abolition de la peine capitale. Les autres traités concernent la protection des migrants, les disparitions forcées, la transparence des investissements et l'interdiction des armes nucléaires. En signant ces traités, la nouvelle Gambie continue à promouvoir la démocratie et démontre son engagement à protéger la vie des activistes politiques, précise la présidence gambienne dans un communiqué. Ces mesures aboliront la peur et garantiront l'état de droit afin que les citoyens puissent exprimer leurs droits civils et politiques, estime M. Barrow. La Gambie a été dirigée d'une main de fer pendant 22 ans par Yahya Jammeh, un ancien militaire. En août 2012, il avait fait fusiller 9 détenus, dont 2 Sénégalais, entraînant une vague de protestations internationales, particulièrement au Sénégal. Il avait ensuite annoncé un moratoire sur les exécutions. M. Jammeh avait fini par concéder la victoire de M. Barrow après avoir résisté pendant près d'un mois, mais il avait finalement quitté les pouvoirs et les pays en janvier à la suite d'une intervention militaire de la CEDEAO et d'une ultime médiation guinéo-mauritanienne.
Au Cameroun, explosion d'un engin artisanal à Douala ce matin à proximité d'un dépôt d'essence de la SCDP, la Société camerounaise des dépôts pétroliers. L'incident n'a pas fait de dégâts ni de victimes et personne n'a revendiqué l'attaque. Mais le gouverneur de la région du littoral où se trouve Douala appelle la population à la vigilance. L'attaque d'aujourd'hui a lieu au lendemain d'un attentat à l'explosif qui a blessé 3 policiers à Bamenda, épicentre de la crise liée à la contestation anglophone. Un acte qui aurait pu être commis par les partisans de ce mouvement, selon les autorités camerounaises.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RDC, le débat sur l'annulation des passeports semi-biométriques est loin d'être clos. Suite à la manifestation mercredi contre cette mesure, qui doit entrer en vigueur le 16 octobre prochain, les autorités s'expliquent sur la décision et aussi sur le coût du passeport biométrique jugé trop élevé. Pour le ministre en charge des Congolais de l'extérieur, les passeports semi-biométriques ne répondent plus aux normes de sécurité requises. Emmanuel Ilunga Ngoy Kasongo, au micro de notre envoyé spécial Abdourahman Dia.
Ces passeports semi-biométriques sont des passeports qui ne détiennent pas les niveaux de sécurité requis. par les standards internationaux. Déjà, ça c'est un. Et puis des deux, ce sont des passeports qui sont plus faciles à falsifier. Et puis des trois, c'est des passeports qui posent problème pour l'identification du détenteur de ce passeport. Et donc, à partir de là, les failles de ces passeports mettent en danger la sécurité nationale, internationale et même de l'individu lui-même. Parce qu'on peut le subtiliser les passeports et commettre des forfaits en son nom. Malheureusement, il va payer le prix dont il n'est pas responsable. Et même certaines chancelleries ne veulent pas mettre des visas dans les passeports semi-biométriques. Parce qu'on considère que ce sont des passeports qui sont très légers, faciles à utiliser par une tierce personne. Ah, bon, peut-être les délais que nous avons donnés, il est court. Je comprends bien que les problèmes de délai peuvent se poser. Mais ceci dit, nous pouvons toujours prolonger peut-être d'un mois encore pour permettre à tout le monde d'avoir son passeport.
Alors, vous êtes en charge du ministère des Congolais de l'extérieur. Vous êtes conscient que beaucoup de Congolais vivant à l'extérieur pourraient avoir des difficultés à avoir ce passeport à temps. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Nous avons pris des dispositions nécessaires pour que dans nos ambassades, nous puissions avoir du personnel supplémentaire pour faire des captures et faire en sorte qu'il n'y ait pas des files d'attente.
Il y a également la question du coût. 250 $, c'est pas donné.
L'État congolais n'avait pas les moyens suffisants pour investir dans les appareils de biométrisation. L'État congolais n'avait pas suffisamment de moyens. Donc nous avons fait un appel d'offres pour que la société qui va répondre puisse le faire en BOT, en BOT. Donc s'autofinancer lui-même et se faire rembourser à travers la vente de passeports. Mais dans les contrats qui nous lient avec la société qui nous fait des passeports, il était question qu'ils vendent 1 million de passeports par an. Alors à ce moment-là, les passeports allaient coûter 60 à 70 $. Mais hélas, ils ne vendent pas 1 million de passeports par an, ils vendent 150 000 passeports par an. Alors que sur 5 ans, ils n'arriveront même pas à 1 million de passeports. Donc la société est revenue à la charge sur le contrat en nous disant elle récupère ses appareils, elle a investi 222 millions d'euros. Parce que dans toutes nos missions diplomatiques, vous avez des appareils de capture en doublant ou en triplant. Elle a investi. Donc elle voulait récupérer les appareils. Nous, l'État congolais, nous avons dit non. Dans ces cas, on va réajuster les prix du passeport pour que vous puissiez compenser votre investissement. C'est ce qui justifie le coût de notre passeport.
D'accord. Emmanuel Ilunga Ngoy Kasongo, ministre en charge des Congolais de l'extérieur. Actualité aux États-Unis maintenant, Washington va accroître son assistance humanitaire à 4 pays, dont 3 en Afrique. Les précisions de Michel Joseph.
Le Soudan du Sud, le Nigeria et la Somalie sont les pays africains qui bénéficieront de cette augmentation de l'appui américain, le Yémen complétant la liste. Washington allouera une enveloppe additionnelle de 575 millions de dollars à cette initiative, a révélé l'Agence des États-Unis pour le développement international. Ces nouveaux fonds permettront de fournir l'aide alimentaire d'urgence, les soins médicaux, les services d'assainissement, des abris d'urgence et aussi de protéger les groupes vulnérables affectés par les conflits, a précisé l'USAID dans un communiqué. Les États-Unis vont pouvoir fournir de l'eau potable et soutenir les programmes d'hygiène pour traiter et prévenir certaines épidémies, comme le choléra, qui prévaut dans les 4 pays ciblés, souligne l'agence américaine. Des dizaines de millions de personnes ont besoin d'assistance dans ces pays, relève l'USAID, précisant que les fonds additionnels feront passer l'aide humanitaire américaine à ces pays à près de 2,5 milliards de dollars pour l'année fiscale 2017.
Par ailleurs, le président américain Donald Trump a émis hier un décret ouvrant la voie à de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, qui est également pénalisée par l'Union européenne. Eric Manirakiza.
Un arsenal de sanctions économiques pour tenter de décourager les ambitions nucléaires de la Corée du Nord. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, Donald Trump a signé un décret pour punir des personnes et sociétés finançant et facilitant les échanges avec Pyongyang. Cette mesure vise notamment des banques chinoises ou des entités russes. Parallèlement, l'Union européenne va interdire aux entreprises européennes d'exporter du pétrole vers la Corée du Nord ou d'y investir.
Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.